Et encore avant, par les Babyloniens, les Assyriens. Ils avaient connu un temps de liberté dans leur pays. Mais même là, ils avaient connu ces envahisseurs, ces Philistins, ces Ammonites, ces Moabites, qui ne cessaient de vouloir les conquérir. Et si on remonte encore plus loin, ils avaient passé 420 ans au moins en Égypte comme esclaves. Et quand Jésus dit à ce peuple, « Je suis venu vous rendre libre », alors certains qui l'entendent disent, « Et nous n'avons jamais été esclaves de personne !» Et toute leur histoire est une histoire d'asservissement. Mais peut-être qu'il y a une signification profonde à cela. Peut-être que l'histoire de ce peuple, c'est notre histoire. Peut-être que c'est l'histoire humaine. Que nous sommes, nous, les êtres humains, en général, les esclaves. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Nous sommes tous asservis. Jean chapitre 8, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Comment dis-tu, vous deviendrez libre ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas seulement qu'ils étaient esclaves de ces peuples, de ces Romains, de ces Grecs, de ces envahisseurs. Ils étaient aussi esclaves d'autre chose. Ils étaient esclaves de leurs dirigeants, par exemple. Ils étaient asservis à Hérode le Grand, ce grand bâtisseur, celui qui a tué presque toute sa famille pour pouvoir conserver son règne. Ils étaient asservis à la famille de Anne le grand prêtre, connue, selon Flavius Joseph dans son histoire ancienne des Juifs, comme la famille la plus corrompue en Israël, la famille du grand prêtre. Ils étaient esclaves. Mais pas seulement cela, ils étaient esclaves d'eux-mêmes, de leur propre convoitise, de leur propre péché. C'était un peuple en esclavage. Et quand on vient vers un peuple en esclavage et qu'on lui annonce la liberté, qu'on lui annonce qu'il peut être libre, enfin, ben, il doit y avoir une réaction. S'il est conscient qu'il est esclave. Alors ceux qui étaient conscients qu'ils étaient asservis à leur péché, quand ils ont entendu Jean-Baptiste et Jésus, ils sont venus tout de suite pour être libérés. Bien sûr, ceux qui ne pensaient pas être des esclaves et qui s'imaginaient être libres tout en étant esclaves, bon, ils ne sont pas venus vers Jean-Baptiste. Ce n'était pas pour eux une bonne nouvelle. C'est comme ça que l'évangile commence, l'évangile de Marc, au chapitre 1. Marc, chapitre 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. L'évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. Mais il dit, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça veut dire, c'est la bonne nouvelle concernant une personne. Le fils de Dieu. Le fils de Dieu, Jésus, il est le libérateur. Il est celui qui vient libérer un peuple qui a été toujours, presque toujours, asservi. Ça, c'est un aspect fondamental de l'évangile, de la bonne nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle, ils sont des esclaves. Il y a une bonne nouvelle. Jésus leur dit, en Jean chapitre 8, « Vous serez réellement libres si le Fils vous affranchit. » Ce peuple a besoin d'une personne, une personne qui est capable de la libérer. Il n'y a personne là, en ce moment, à l'époque de Jésus, qui puisse le faire. Oui, il y a des hommes justes, il y a des hommes bien, il y a des hommes puissants, il y a des hommes qui ont des armées. Mais aucun de ces hommes n'est capable de libérer son peuple, ce peuple, de son esclavage le plus important, son péché. Ils avaient reçu une loi pour ne pas pécher, la loi de Moïse. Mais cette loi, elle était incapable de les libérer de leur péché. Jésus vient apporter, lui, une loi aussi, la loi du Christ, une loi d'amour, une loi de grâce, une loi de miséricorde, une loi de justice, parce qu'il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bon, cette loi du Christ, elle est capable de rendre l'homme libre, l'Israélite, alors que la loi de Moïse ne pouvait pas le faire. Alors le peuple, nous dit l'évangile de Marc, et les autres évangiles, en particulier Luc, quand il entend qu'il y a une bonne nouvelle et que le libérateur, parce que c'est ça, le Christ, le Messie, le libérateur est venu, eh bien ce peuple tout entier, nous dit l'Évangile, il vient à Jean.
Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Ce peuple, il était prêt, préparé à venir à ce baptême parce qu'il savait qu'il en avait besoin, qu'il avait besoin d'avoir ses péchés pardonnés, qu'il était esclave, qu'il était asservi. Dans ce peuple, il y en avait qui ont aussi entendu ces messages et qui ont refusé de venir à Jean-Baptiste, d'être baptisé de lui. Qui sont ces gens? Jésus nous le dit lui-même. C'est dans Luc, le chapitre 7. On va essayer de le trouver. Chapitre 7, verset 29. Jésus dit, « Tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Les gens les plus religieux d'Israël, les pharisiens, les chefs religieux, eux, n'ont pas entendu ce message, ne l'ont pas compris, ne l'ont pas accepté. Ils ne sont pas venus. Alors, l'espérance fondée sur une bonne nouvelle. Où est l'espérance dans tout ceci, dans tout ce que je viens de dire? Où placer l'espérance? Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance, c'est une attente de quelque chose de meilleur. Quand on espère, on attend quelque chose de meilleur. On n'est pas satisfait de ce que l'on a. Vous savez, si je suis content de ma vie, telle que je l'ai maintenant, si je suis content que ma vie se résume à manger, à dormir, à aller travailler, et puis aller de temps en temps au cinéma, il n'y a pas d'espérance. Je n'attends rien de mieux. Celui qui espère, c'est celui qui attend quelque chose de mieux que ce qu'il a. Et eux, ce peuple, ils attendaient quelque chose de mieux, de beaucoup mieux. Ils attendaient le Sauveur. Et ce qui est important, c'est qu'au cours de tous ces siècles où ils étaient esclaves et asservis, où ils souffraient terriblement, ils n'ont pas perdu l'espoir. C'est extraordinaire. Vous avez souffert dans la vie? Vous avez eu des épreuves? Est-ce que vous gardez l'espérance? Je dirais, je l'espère pour vous. Si les épreuves et les difficultés que vous avez eues vous empêchent d'espérer, il y a un vrai problème. Si vous avez des difficultés dans la vie, des épreuves, vous vous rendez compte que la vie que vous avez ou que vous avez eue n'est pas satisfaisante. Il lui manque quelque chose. Comment pouvez-vous avoir des épreuves, des souffrances, des maladies, des deuils et dire, oh qu'on est bien ici, c'est merveilleux la vie ici sur Terre, hein? C'est formidable, hein? Comment pouvez-vous dire ça? Non! Vous dites, il y a quelque chose de mieux, j'aspire à autre chose, il doit y avoir autre chose. C'est ça l'espérance. C'est l'espérance que tout le peuple d'Israël, il avait conservé, il avait gardé. Il avait gardé cet espoir, ils avaient gardé confiance. Quand Jean-Baptiste vient, il se présente comme celui qui vient accomplir ce que les prophètes ont dit. Au début de Marc, encore il dit, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, c'est-à-dire 8 siècles avant, déjà, c'était écrit qu'il viendrait le Sauveur. Et pendant ces 8 siècles, bon, même avant c'était écrit, pendant ces 8 siècles, voilà que ce peuple, il attend de génération en génération. Comment est-ce possible qu'ils ont pu garder cette espérance pendant des siècles? Et il y a une raison, il y a une explication. Elle nous est donnée l'explication dans le livre de Deutéronome, dans un commandement qui est bien connu du peuple d'Israël. C'est Dieu qui donne ce commandement, un des premiers commandements. Écoute Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, elles seront comme un fronton entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Eh bien, comment ils avaient gardé l'espérance? Parce qu'ils en avaient entendu parler par leur père et leur mère, par leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents. Voilà comment ils ont gardé cette espérance. Ce message d'espérance, il avait été transmis de génération en génération. C'est ce que Dieu voulait en donnant ce commandement. Il voulait qu'on conserve l'espérance. Mais comment conserver l'espérance? Sans une parole d'espérance. Eux, ils avaient conservé cette espérance. Ils avaient continué à la transmettre de génération en génération. Et Dieu avait parlé à son peuple. Il avait parlé à son peuple dans le prophète Ésaïe, si j'arrive à le trouver. Comme on parle à une épouse. Une épouse qui nous a quittés. Une épouse qui nous a trahis. Et on la retrouve. Et on est tellement heureux parce qu'on l'aime toujours. Dieu a toujours aimé Israël. Mais Israël n'a pas été fidèle. Mais Dieu a toujours eu dans son cœur de retrouver son épouse parce qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. De même que le fils prodigue, quand il est parti, c'est pas parce qu'il est parti que son père ne l'a plus aimé. Au contraire, sans doute. Peut-être on pourrait dire qu'il l'aimait encore plus. Et donc il l'attendait, ce fils. Eh bien, Dieu attendait son épouse. C'est ce qu'il dit en Ésaïe chapitre 54. Ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Quel grand amour, quel amour de Dieu. L'Ancien Testament, c'est ce message que Dieu est amour. Et que même s'il y a des difficultés et des épreuves pour Israël, même s'il y a des péchés, même s'il y a des punitions parfois, Dieu aime son épouse, Dieu aime son peuple. Et c'est parce que le peuple savait que Dieu l'aimait qu'il a gardé l'espérance. J'en parlerai un autre soir. Mais l'espérance vient d'une chose très importante, de l'amour. Si vous êtes entouré de gens qui n'ont pas d'amour, qui sont durs, qui sont intransigeants, et qui ne pensent qu'à eux, et qui ne vous aiment pas, vous allez perdre l'espérance. L'espérance est le fruit de l'amour. Dieu le savait quand il a envoyé son fils. Il le savait. C'est une des raisons du désespoir. Ce n'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de connaissance. C'est que nous vivons dans un monde sans amour. Un monde sans amour, c'est un monde qui perdra l'espérance. C'est sûr. Mais Dieu, lui, il aimait toujours Israël. Et il a prouvé envers Israël cet amour. C'est pour ça qu'Israël n'a jamais perdu l'espoir. Jamais. L'espérance, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, se fonde sur la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Aujourd'hui, peut-être vous êtes ici et vous n'avez aucune espérance. C'est possible. C'est possible. Mais qui vous en a parlé de l'espérance? Est-ce que quelqu'un vous en a parlé? Est-ce que vos parents vous en ont parlé? Avez-vous rencontré quelqu'un qui vous a dit « il y a une espérance » Et surtout, est-ce que vous avez entendu Dieu vous dire « il y a une espérance » Parce que Dieu nous dit dans sa parole « il y a une espérance ». Vous ne pouvez pas avoir d'espérance si vous ne savez pas que Dieu vous le dit et vous le promet. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous fabriquer une espérance. Bien sûr, les hommes essayent, mais continuellement, ils sont déçus. D'ailleurs, on pourrait dire que 90% de l'existence humaine, c'est de se fabriquer des espérances et d'en être déçus. Voilà la vie humaine. Terrible vie, une vie de déception. Alors que la vie chrétienne, c'est d'accueillir l'espérance de Dieu et d'en vivre. C'est le contraire, c'est tout autre chose. Donc l'espoir et l'espérance dont nous allons parler tous ces soirs, c'est une espérance fondée, non pas sur une idée humaine, une parole humaine, c'est fondée sur une parole de Dieu, transmise à travers les âges et qui ne change pas, une parole d'amour. Cette espérance aussi est basée sur une parole de Dieu parce que Dieu nous dit qui nous sommes. Jésus nous dit qui nous sommes. Dans Marc chapitre 7, il nous dit qui nous sommes. Il nous dit aussi comment nous sommes. Si j'arrive à le trouver. Marc chapitre 7. C'est du dedans et c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus nous dit, votre cœur doit changer. Ça, c'est une base d'espérance. Si vous pensez, tout va bien avec moi, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, si vous pensez, oh, je suis bien dans cette vie, dans cette existence, alors vous n'avez pas d'espérance. Si vous pensez, tout va bien avec moi, alors que vous savez très bien que vous êtes mauvais, méchant, vous avez fait des mauvaises choses, que vous devez changer, que vous avez envie d'autre chose dans votre cœur, eh bien, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance. Vivre avec le mal, vivre avec la culpabilité, et savoir que ça ne pourra jamais changer, que vous ne pourrez jamais changer, c'est terrible. Quel esclavage! quel manque d'espérance. Mais savoir que oui, c'est vrai, je suis mauvais, je le reconnais, je peux changer. Quelle source d'espérance. Le peuple d'Israël, quand il a entendu le message de Jean-Baptiste qui disait « Repentez-vous de vos péchés », ils sont venus tous. Ils ont accepté. Les autres, les pharisiens, les chefs de la loi, nous mauvais, nous on doit changer. C'est pas possible, on est les chefs religieux. Ces gens-là n'avaient pas d'espérance. Ils avaient perdu leur espérance. Le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, où on ne reconnaît pas nos fautes, il a changé. Il n'a pas d'espérance. Vous savez, une chose qui pourrait changer toute l'histoire de France, il suffirait de 5 minutes. En 5 minutes, vous changez l'histoire de France aujourd'hui. Je vais vous dire le secret. Ceci. C'est que sur la télévision en France, où 10 millions de personnes regardent, je ne sais pas quelle chaîne, première chaîne, deuxième chaîne, un jour, quelqu'un de très haut placé, peut-être le président, peut-être, ou un ministre, passe à la télévision et dit au peuple français, j'ai commis une faute, et je le regrette, et je me repens, j'ai mal fait. Si quelqu'un faisait ça à la télévision, ça changerait l'histoire de France. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils verraient ça, ils se diraient, ah ben oui, si lui reconnaît ses fautes, peut-être que moi aussi je pourrais les reconnaître. Et admettre que je fais mal, au lieu de croire que je ne fais rien de mal. Et là, ça changerait tout. Mais bien sûr, on n'entend pas cela sur la télévision. On n'entend pas. Bien sûr qu'il y a beaucoup de fautes et de mal qui est commis, mais chaque fois qu'on demande, ah mais c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Je suis responsable, mais pas coupable. C'était l'autre, c'est l'autre ministre qui a fait cela. On ne reconnaît pas le mal. Et donc, il n'y a pas d'espérance pour ce peuple. C'est sans doute pareil dans d'autres peuples aussi. Oui, il y a une espérance, parce que la parole de Dieu, c'est un miroir qui nous montre tel que nous sommes. Nous sommes mauvais pécheurs, mais qui nous montre aussi que Dieu nous aime, qu'il veut nous libérer. Un jour, Arthur Schopenhauer, le philosophe du pessimisme, était assis sur un banc aux eaux de Francfort. Il était en très mauvais état. Il ne s'est pas coupé les cheveux et ni lavé les cheveux depuis des semaines. Son costume était tout élimé. Il était totalement méconnaissable. Et le gardien du zoo est passé à côté de lui, il a dit, mais qui êtes-vous, monsieur? Il pensait que c'était un clochard. Et Schopenhauer a répondu, j'aimerais bien le savoir. Très bonne réponse. Il ne pouvait pas savoir qui était le philosophe du pessimisme. Comment l'aurait-il su? Seul Dieu le connaissait. Seul Dieu savait son problème. Seul Dieu connaissait son pessimisme et sa tristesse. Et si Dieu lui avait parlé, qu'il l'avait écouté, qu'il l'avait entendu, il aurait su qui il était. Il aurait su, même si je ne sais pas qui je suis. Quelle tristesse de vivre toute sa vie sans savoir qui on est. Terrible, terrible esclavage. Alors nous voulons apprendre au cours de ces soirées qui nous sommes et qui est Dieu. Nous sommes pécheurs, nous sommes esclaves. Dieu est amour. Il veut nous rendre libres. Voilà ce que nous allons voir chaque soir. Et nous allons parler des conséquences aussi de cela, de cette libération. La joie, la paix, l'amour, et finalement, la vie ensemble, c'est-à-dire l'Église, la famille de Dieu. C'est ce que nous verrons. Et j'espère que chacun de vous qui est ici ce soir, même si c'est difficile, même s'il faut voyager beaucoup, même s'il faut prendre l'avion, vous serez ici demain soir pour entendre, pour être encore là, parce que ça vaut la peine. Et peut-être, vous n'aurez pas l'occasion d'entendre quelque chose comme ça. Jamais. C'est possible. C'est possible. Vous savez, les films, ça revient, ça repasse, vous aurez toujours occasion d'en voir. Mais annoncer l'Évangile, il n'y a pas beaucoup qui se passe. Ça ne se passe pas beaucoup ici à Genève. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Croyez-moi, il n'y a pas beaucoup d'occasions. À la télévision, il y en a moins encore. Alors, je vous encourage, ça c'est vraiment une occasion unique. Et en plus, c'est gratuit. Formidable. On ne vous demandera rien, pas d'argent, c'est gratuit. Et en plus, on vous donnera à boire et à manger. Extraordinaire. Alors, il faut inviter tout le monde. Il faudrait inviter toute la ville de Genève. Ben, on aurait un peu problème de place, mais c'est pas grave. Hein? Un petit problème d'alimentation, s'il faut un peu plus, Marc. Hein? Un petit camion, là. Donc, nous allons continuer en chantant. Nous allons encore avoir quelques chants. Et après, ben, je pense que Marc, tu vas... Vraiment, tout louper ce jour-là. Elle essaie de monter des maisons. Elle rentre chez elle, fâchée, en colère. Elle monte les escaliers, elle rentre dans la chambre de sa fille. Et elle dit, ma fille, je dois te dire quelque chose. La fille, elle est toute interloquée, et sa mère qui arrive comme ça, comme une furie. Tu dois apprendre quelque chose dans la vie. Dans la vie, tu ne peux et tu ne dois compter sur personne que toi-même. La fille, elle ne sait pas comment réagir, et la maman repart, elle s'en va. Le même jour, au cours du repas du soir, il y a la maman, il y a le papa qui est assis en face, bien sûr, une très grande table, avec une grande distance entre les uns et les autres, comme il se doit dans toute famille, et la fille, assise sur le côté. Et le papa s'intéresse à la journée qu'a passée sa fille au lycée.
Et elle lui demande,
mais comment ça a été aujourd'hui au lycée? Ça s'est bien passé?
Elle répond pas. Et elle demande une deuxième fois. Alors la fille le regarde, elle regarde son père et dit, papa, ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça s'est passé aujourd'hui au lycée ou pas?
Cette femme, la mère dans ce film, qui est un peu le personnage central, c'est une self-made woman. Avant, on disait self-made man, maintenant c'est self-made woman. Elle s'est faite toute seule, et c'est une femme d'affaires. Incroyable. Elle a tout donné pour sa carrière. Mais il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, où elle commence à se rendre compte que ça ne l'amène nulle part. Et il y a une angoisse qui s'installe en elle, à réaliser cela, parce qu'elle a donné toutes ces années, toute cette énergie depuis des années. Elle a sacrifié son mari, elle a sacrifié sa famille, et elle se rend compte, mais ça ne mène à rien. Elle est profondément malheureuse. Elle ne sait pas pourquoi. La fille est profondément malheureuse dans cette famille, l'adolescente. Profondément malheureuse. Elle ne sait pas pourquoi non plus. Le mari est profondément malheureux, mais lui, il sait pourquoi. Il cherche quelqu'un, un ami, une personne avec qui il pourrait vraiment être en confiance, avec qui il pourrait passer des bons moments, à qui il pourrait s'entendre, il est tout seul. Mais il n'arrive pas à trouver cette personne. Et tout au long du film, il va chercher cette personne, il ne la trouvera pas. Donc voilà l'histoire de cette famille. Bien sûr, ce n'est pas une histoire très gaie pour parler de l'espérance et de la joie. C'est donc une famille frustrée que nous montre ce film. Cette jeune fille est malheureuse. Elle doit vivre avec des parents qui ne savent pas pourquoi ils vivent, qui sont, on peut le dire, déboussolés dans leur vie, qui n'ont pas de direction. La maman est frustrée dans sa vie parce qu'elle a tout donné, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour arriver tout en haut de l'échelle, et quand elle arrive en haut, elle a l'impression qu'elle est arrivée nulle part. Il y a de quoi être frustrée. Et cela arrive souvent, d'ailleurs, pour ceux qui réussissent enfin. Ils ouvrent les yeux et se rendent compte, mais j'ai réussi à rien du tout. Ça ne me servit à rien. Et l'époux, lui, le mari, il est malheureux parce qu'il n'a ni compagne ni ami. Plusieurs fois au cours du film, la femme parle à son mari et lui fait comprendre, d'une manière très directe, tu ne m'es d'aucune utilité. C'est vraiment pas très gai dans un couple de dire cela, ou que de penser cela, mais on peut en arriver là. Tu ne m'es d'aucune utilité. Un film pessimiste. Alors, quand on voit ce film, c'est vrai, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps, je me suis posé la question, au fond, où se trouve la joie dans ce monde? Et où se trouve la paix? Où se trouve la joie pour une famille? Où se trouve la joie dans un cadre de travail et pour la société en général? Où pouvons-nous trouver la paix? Pouvons-nous la trouver, cette joie, en nous-mêmes? Pouvons-nous la trouver dans les autres? Pouvons-nous la trouver dans une épouse? Dans un mari, dans un enfant, dans un ami? La question se pose. Et la réponse à cette question, c'est oui et non. Oui. C'est évident. Nous pouvons trouver une joie, et une joie très grande, dans un époux, dans une épouse, dans un enfant, dans un ami, bien sûr. Mais non aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ternit cette joie, et que nous ne pouvons pas éviter. Il y a quelque chose qui ternit cette joie. Et ce qui ternit cette joie, c'est ce dont j'ai parlé et que je continuerai à parler chaque soir, c'est ce que la Bible appelle le péché. Alors qu'est-ce que c'est le péché? C'est pas ce que la télévision nous dit quand quelqu'un essaye de prendre quelques bonbons, il dit il va manger des bonbons, il dit oh il a péché, hein, oh là là il est gourmand. C'est pas ça le péché. Le péché, c'est le mal qu'on s'inflige à soi-même. Et c'est le mal qu'on inflige aux autres. Or, le mal qu'on s'inflige à soi-même et le mal qu'on s'inflige aux autres va détruire et va ternir cette joie que normalement nous devrions avoir dans un couple, dans une famille, dans une église, dans n'importe quelle relation humaine. Le problème du péché est toujours là. Alors Jésus vient au début de l'évangile de Marc, nous dit l'évangile de Marc, chapitre 1, il vient annoncer un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle. Au commencement, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est un message. L'évangile, c'est un traduit bonne nouvelle. Ça veut dire, et ça c'est important, c'est un message. Il y a un message, il y a une vérité, ou il y a des paroles que nous devons entendre
pour qu'il y ait une bonne nouvelle. Mais d'ailleurs, la traduction bonne nouvelle n'est pas forcément la meilleure à partir du grec. Plusieurs exégètes ont proposé comme meilleure traduction plus précise, non pas la bonne nouvelle, mais la joyeuse nouvelle. La préposition grecque « eu » peut être plutôt traduite « une joyeuse nouvelle ». Je préfère. Une nouvelle qui apporte la joie. Voilà ce que Jésus vient annoncer au monde. Une nouvelle qui apporte la joie. Mais ce que je voulais souligner, c'est que il n'y a pas cette joie en dehors de ce message. Nous devons entendre quelque chose. Nous devons prendre connaissance de quelque chose que nous ne connaissons pas, ou peut-être nous le connaissons mal, pour qu'il y ait une joie en nous. La joie, cette joie que nous cherchons et qui ne va pas être ternie, n'était pas en nous, n'est pas dans notre époux, dans notre mari, dans notre ami. Elle est dans un message. Et ce message, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Elle est dans cette personne. Alors pourquoi cette personne n'est pas une autre? L'explication est comme ça. C'est que nous pouvons trouver la joie en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, lui, n'est pas terni par le péché. Par ce mal que nous nous infligeons à nous-mêmes et que nous infligeons aux autres. Et donc, avec lui, la joie que nous trouvons en lui, elle ne sera jamais déçue du fait que, à cause de qui il est, Jésus-Christ n'a pas été terni par le péché, par le mal. Lorsque l'ange vient vers Marie et lui annonce la naissance de Jésus, bien sûr dont elle sera la maman, Marie va chanter un cantique de joie. Voilà sa réaction à l'annonce de cette bonne nouvelle. Luc chapitre 1. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Elle a entendu un message de Dieu, une annonce de Dieu, et elle s'est réjouie. Les bergers aussi, qui étaient en train de paître leur troupeau, eux aussi ont entendu l'annonce de cette message, de cette bonne nouvelle, par des anges. Luc, chapitre 2. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alors quand Jésus vient, quand le Seigneur vient, alors là, nous pouvons nous réjouir. Jésus lui-même, dans son enseignement, nous fait comprendre que la joie passe, on pourrait dire, par les oreilles. Par les oreilles, c'est-à-dire par l'écoute de quelque chose. Par l'écoute. Il le dit dans l'évangile de Matthieu, je vais vous lire le texte. « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Heureux sont nos oreilles. Si nous entendons ce message. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu, et ils ont aussi désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Quelle différence entre ceux qui ont pu entendre cette joyeuse nouvelle et ceux qui ne l'ont jamais entendu? Moi je le sais, parce que jusqu'à l'âge de 21 ans, je vivais dans la tristesse. Et je ne savais pas pourquoi. Bon, j'avais rencontré des personnes gentilles qui s'étaient occupées de moi. Bon, j'avais eu quelques problèmes aussi dans mon enfance, comme tout le monde, parfois assez graves même. Mais j'avais eu de bonnes choses dans mon enfance, de très bonnes choses, mais je vivais dans la tristesse. Et je peux dire, je peux témoigner, que je n'ai connu la joie que par l'évangile de Jésus-Christ. Là, j'ai rencontré la joie. Et cette joie ne m'a jamais quittée, même dans les épreuves les plus difficiles, les plus terribles que l'on peut vivre. Cette joie est restée. Elle n'a pas été ternie par le mal qu'on peut s'infliger à soi ou aux autres. Elle n'a même pas été ternie par le décès ou la mort d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée. Quelle joie incroyable! Ça ne peut pas être une joie qui a sa source dans l'homme ou qui a sa source dans les choses. Ça ne peut être qu'une joie qui a sa source ailleurs. Tellement au point d'ailleurs que parfois on me dit, parfois on me prend sur le côté comme ça quand je fais une étude biblique ou je parle à quelqu'un, ça m'est arrivé deux, trois fois, Yann, j'aimerais te demander quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'es pas un extraterrestre? Peut-être que oui. Il y a quelque chose d'extraterrestre dans cette joie. Quelque chose qui transcende, qui vient d'au-delà de ce qu'il y a sur cette terre. Sur cette terre, vous ne trouverez pas cette joie. Cette joie qui n'est pas ternie par le mal, qui n'est pas ternie par la mort, vous ne la trouverez pas. Mais vous pouvez la trouver dans le ciel. Parce que cette joie, elle est venue du ciel vers nous. Vers nous, les hommes, qui sommes dans la tristesse. Alors, American Beauty, des personnages tristes, sans espoir. Et une question intéressante que je me suis posée pendant ce film, mais j'ai encore des choses à dire sur ce film parce que je ne suis pas d'accord avec le film. Quand même. Je vais vous dire pourquoi. Mais quand même, dans ce film, il y a une scène intéressante, il y a une autre famille, c'est un colonel à la retraite qui est assis devant sa télé. On ne voit pas ce qu'il y a dans la télé est de dos. Alors on voit sur le divan le colonel à la retraite, on voit sa femme et on voit le garçon, qui est aussi un des personnages importants du film, qui est assis. Et ils sont en train de regarder la télévision. On croit qu'ils sont en train de regarder la télévision, mais en fait, la maman ne regarde pas la télévision. Elle regarde dans le vide. Hein? Elle ne regarde rien du tout. Et à un moment donné, pendant qu'ils sont en train de regarder la télévision, la maman se tourne vers son mari et le garçon et dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Et les deux la regardent interloquée. Hein? Elle me parle. Incroyable. Et les deux, le fils et le père, disent presque en même temps « Mais on t'a pas parlé. » Ah, ben je croyais qu'on m'avait parlé. Bon, qu'est-ce qui se passe avec la télévision? Bon, beaucoup de choses. D'abord, on ne se parle plus. Parce qu'on peut pas. S'il y a télévision qui parle, ben, on ne peut pas parler en même temps. Ou alors, il faut fermer le poste et parler. Ou alors, il faut se taire et ouvrir le poste. On n'a pas le choix. Hein. Bon, on ne se parle pas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre chose beaucoup plus importante. Dans la télévision, quand vous l'écoutez, quand vous la voyez, dites-moi où sont les bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles sur la télévision? De temps en temps, il y a quelque chose de bien. C'est vrai. De temps en temps, il y a une histoire vraiment encourageante. Mais combien de fois dans une semaine ou dans un mois? Pas souvent. Ces gens qui sont assis devant leur télévision, ils sont dans le désespoir. Eux aussi, cette famille, ils sont dans la tristesse. Posez-vous la question, pourquoi? Eh bien, c'est normal. Parce qu'à entendre 3-4 heures par jour ce qu'on entend à la télévision, il y a quoi être dans la tristesse. C'est normal. Si la bonne nouvelle produit la joie, à force d'entendre des mauvaises nouvelles, ben, on finit par être déprimé. Il y a une certaine logique, là, dans la Bible. C'est comme cela. Et le film le montre. Alors, aux États-Unis, il y a aux États-Unis une pratique religieuse, c'est-à-dire une pratique chrétienne, supérieure à n'importe quel autre pays. Il y a à peu près 50% de la population qui va régulièrement, c'est pas, ça ne veut pas dire à Noël, à Pâques, et deux, trois fois par an, mais ça veut dire chaque dimanche à l'église. Il y a une pratique chrétienne extraordinaire. Et il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Moi, je l'ai vu. J'ai vu des chrétiens qui vont dans des prisons, qui parlent à des gens qui sont condamnés à mort. Et ces gens-là qui sont condamnés à mort, ils se transforment et ils acquièrent une joie alors qu'ils savent qu'ils sont condamnés à mort. Et ils deviennent différents. Et il y a des œuvres formidables. Il y a des églises partout. Et les gens, ils chantent, ils prient. On voit les familles le dimanche qui se déplacent pour aller à l'église, comme des troupeaux de bisons. C'est fantastique. Vraiment, on ne voit pas ça en France. Alors, quand même, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, parce que dans ce film, cette dimension-là, le fait qu'il y a cette influence chrétienne, elle n'est absolument pas montrée dans le film, elle est totalement absente, comme si elle n'existait pas. Donc ce film n'est pas réaliste. Ce film ne montre pas la société américaine. Ce film montre le pessimisme du réalisateur, mais ne montre pas la réalité de cette société. Parce que là-bas, on peut avoir l'occasion de voir les chrétiens, d'entendre une bonne nouvelle. Sans doute beaucoup plus là-bas, d'ailleurs qu'ici. Mais pourquoi ce choix du réalisateur de montrer quelque chose qui n'existe pas? Un monde où il n'y a absolument pas d'expérience de christianisme, c'est pas ce monde-là, les États-Unis. Et pourquoi? Ben, j'ai dit, ça reflète le pessimisme du réalisateur, mais c'est pas simplement ça. C'est aussi une volonté délibérée, je pense, peut-être inconsciente, mais à mon avis c'est une volonté délibérée, voulue, intellectuelle, d'éliminer du film toute référence à l'espérance chrétienne. Et ce n'est pas seulement dans le cinéma, cela. Ce n'est pas seulement dans le cinéma, c'est à la télévision. C'est dans toutes les choses publiques et médias, parce que la foi chrétienne n'est pas considérée comme quelque chose de public. La foi, c'est privé, c'est votre affaire. Mais il ne faut pas en parler en public. Il ne faut pas le montrer en public.
La foi a été marginalisée de l'existence. Et pourtant, elle est toujours là. Hein. Parce que les cinéastes, les écrivains, les gens de télévision ont beau vouloir la marginaliser, elle est toujours là quand même. Donc ce film ne dit pas la vérité. Mais il montre quand même quelque chose d'important. C'est que quand il n'y a pas le message, quand on n'est pas au contact du message et de ceux qui le vivent, eh bien le désespoir s'installe. Ça c'est vrai. Ça c'est une certitude. L'évangile de Marc donc nous dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc la bonne nouvelle, c'est-à-dire la joyeuse nouvelle, la nouvelle qui va nous apporter la joie concerne Jésus-Christ. Alors voilà ce que je comprends déjà par cela. Tout ce qui concerne Jésus, depuis sa naissance, comment il a vécu, tout ce qu'il a enseigné, il est mort sur une croix aussi. On pourrait dire ça c'est pas une très bonne nouvelle, mais si ça fait partie, sa résurrection, son enseignement, tout cela, chacune de ces choses, il y a dans chacune de ces aspects de la vie de Jésus une bonne nouvelle, une source de joie. Elle est source de joie, cette bonne nouvelle, mais à condition, il y a une condition, c'est que nous en prenions connaissance. C'est que nous la lisions, ou que nous entendions parler, ou que nous y réfléchissions, que nous l'écoutions. Jésus a dit, celui qui a les oreilles, il écoute. Là, ça c'est la condition essentielle. Si nous écoutons, si nous ouvrons notre cœur à la vie de Jésus, à ce qu'il était, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a enseigné, eh bien, ce message va apporter dans notre vie, dans notre cœur, cette joie que nous n'avons pas. Eh bien sûr, la condition, c'est de l'écouter, de vraiment l'entendre. Il est vrai qu'on peut entendre ce message et le rejeter, et dire non, c'est possible. Ça peut arriver. C'est peut-être pas forcément votre cas, mais ça peut arriver. Un condamné à mort, par exemple, qui est condamné à mort, peut être gracié par le président de la République. Le président de la République dit, hein, Jacques Chirac, il dit, non, il ne sera pas condamné à mort. C'est vrai. Et le condamné à mort peut dire, non, j'en ai rien à faire de ce que le président de la République décide. Moi, je veux être condamné à mort. Bien sûr. Il peut dire, je veux être condamné à mort. Ou alors, quelqu'un joue au loto, il a gagné 50 millions de francs. Et puis, on lui dit, écoutez, il faudrait empocher votre argent parce qu'il va être trop tard. Hein. Dépêchez-vous d'en empocher. Mais on peut dire, comment ça, mais vous allez pas m'obliger à toucher 50 millions de francs. Je peux très bien dire non, je ne veux pas ces 50 millions de francs. Bien sûr, c'est possible. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Dans quel but? Et nous pouvons dire, quand Dieu nous dit qu'il peut nous pardonner nos péchés, nos fautes, qu'il peut nous donner une vie nouvelle en Jésus-Christ, qu'il peut nous donner la vie éternelle, qui est beaucoup plus que même d'être gracié ou de toucher 50 millions, bien sûr, nous pouvons dire, mais je n'ai rien à faire de la vie éternelle, j'ai rien à faire du pardon des péchés, j'ai rien à faire de ressusciter. Pourquoi m'offrir cela? Bien sûr, on va dire, mais pourquoi? Pour quelle raison? Quel aveuglement extraordinaire! Quand on vous présente un cadeau si merveilleux, vous dites, non, j'en veux pas. Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir aux conséquences, parfois, de dire non. Parfois, il faut réfléchir aux conséquences. C'est grave. Alors donc, dans le film American Beauty, nous avons trois personnages. Nous avons une mère déçue d'elle-même, nous avons une fille déçue par ses parents, et nous avons un père déçu par ses amis et par son épouse aussi. Ils sont dans la déception. Pourquoi? Ils sont dans la tristesse, pourquoi? La raison est simple, c'est que le péché a terni toutes ses relations. Il a terni toutes ses relations. Et vous savez, nous aussi nous connaissons ça. Tous ceux qui vivent en couple, tous ceux qui ont des enfants, ou tous ceux qui sont au travail, ou dans n'importe quelle relation, vous savez très bien qu'il n'y a pas de relation parfaite. Il va arriver à un moment donné, dans la meilleure des relations, les deux plus grands amoureux du monde, il va arriver à un moment où le péché va ternir cette relation. Alors qu'est-ce que vous allez faire quand ça arrivera? Si vous n'avez que vos sentiments d'amour, qui sont merveilleux, mais si vous n'avez rien d'autre, si vous n'avez pas ce plus, pour faire opposition, pour faire barrage à ce mal, eh bien, vous allez souffrir énormément. Et ça risque de s'empirer. Et c'est souvent ce qui arrive dans les couples et dans les familles. C'est comme une spirale. On descend. Et c'est pas comment faire pour s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on n'a que nos propres forces, que nos propres ressources. Et le Seigneur lui tend la main et dit, moi je peux aider ton couple. Moi je peux aider ta relation avec tes enfants. Moi je peux t'aider dans ta relation au travail. Mais nous ne voulons pas. Et nous descendons.
farci, c'est dommage.
Nous devons donc entendre la bonne nouvelle, et nous devons dire oui à cette bonne nouvelle. Alors comment nous disons oui à la bonne nouvelle? Est-ce qu'il suffit de dire, quand par exemple Yann aussi qui a prêché, de dire, lever la main et dire oui, j'accepte la bonne nouvelle? Bon, c'est pas comme ça que Dieu a dit qu'il fallait faire. Hein? Jésus nous dit comment il faut faire. Dans Marc chapitre 16, à la fin de l'évangile, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On annonce la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Voilà comment on dit oui à la bonne nouvelle.
Celui qui croira et celui qui sera baptisé. Alors, quelqu'un dirait, mais bon, je veux bien celui qui croira, mais celui qui sera baptisé, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça, celui qui sera plongé dans l'eau, qui sera immergé dans l'eau, lui aussi, il sera sauvé. Celui qui croira, ça, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors, on peut bien sûr sortir tous les passages, expliquer, mais je vais essayer d'expliquer par un exemple qu'on connaît bien. C'est celui du mariage.
Un jeune homme rencontre une jeune fille. Ou peut-être deux personnes même d'âge mûr, hein, tombent amoureux.
Ça peut arriver aussi.
Ils tombent amoureux, et le jeune homme, il demande à la jeune fille, à un moment donné, est-ce que tu m'aimes? Moi je t'aime, est-ce que tu m'aimes? La jeune fille peut dire oui ou non. Elle peut dire oui ou non. Elle dit oui. Ça, c'est la réponse de la foi. Dieu, il nous aime. Et il nous demande en mariage. Il nous dit, par l'évangile, est-ce que tu veux du salut? Est-ce que tu veux de mon pardon? Est-ce que tu veux vivre avec moi? Alors nous pouvons dire à Dieu deux choses, oui ou non.
La foi, c'est simplement qu'en lui disant à Dieu, oui, je veux de ce salut, de ce pardon.
Alors qu'est-ce que c'est le baptême? Eh bien, le baptême, c'est comme dans le mariage. La jeune fille, elle dit au jeune homme, oui, je t'aime.
D'accord? Ça, c'est important. Mais il faut le mariage. Il faut qu'il y ait cet événement, on pourrait dire, hein, cet événement. Il faut qu'il y ait un moment, si vous voulez, où ça se concrétise. Où il y a un point de départ à la vie de mariage. C'est pas simplement un sentiment de mariage, c'est un début de quelque chose de totalement nouveau dans une vie. Donc il y a un moment, et tout le monde le sait, dans toutes les civilisations, on a un moment de mariage. Il paraît qu'en Écosse, pour se marier, il faut faire ses promesses l'un à l'autre au-dessus d'un ruisseau. Hein? C'est au-dessus d'un ruisseau. Bon, si on fait ça, on est marié. Chaque civilisation est là quelque chose. Donc nous aussi, dans le christianisme, dans la vie chrétienne, nous avons quelque chose qui est le mariage. Et devant Dieu, nous nous engageons. Et nous disons oui. À ce moment-là, nous disons oui. Mais nous avons déjà dit oui avant. N'est-ce pas? Heureusement. Nous avons déjà dit oui avant. Et donc, dans le mariage, nous disons oui. Et bien, c'est ça le baptême. Le baptême, c'est la cérémonie de mariage. Et c'est bien d'avoir une cérémonie de mariage. Parce que si simplement vous dites oui, alors vous êtes en train de discuter 5 ans ou 10 ans après avec votre épouse, et dire, tu te souviens quand j'ai dit oui? Ben oui, mais il y a eu plusieurs fois que tu as dit oui. Je ne me souviens pas. Tandis que si on s'est marié, on a été ensemble ce jour-là. Avant, on peut dire, oui, tel jour. Tu te souviens? On s'est marié tel jour. Et là, on peut se situer. Et c'est ça le baptême. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que Jésus l'enseigne. C'est comme la cérémonie de mariage. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle, l'évangile? Cette joyeuse nouvelle? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est une demande en mariage. C'est une demande en mariage de Dieu. Et vous savez, j'ai lu hier Ésaïe 54. Ce n'est pas une idée de l'invente. Dieu épouse son peuple. Et l'Église est l'épouse du Christ. Et quand vous dites oui à Dieu, à Jésus-Christ, vous dites oui, j'épouse Dieu. C'est fantastique. Dieu devient mon époux. Et nous allons vivre ensemble une communion d'amour. Fou, c'est extraordinaire. Voilà ce que c'est que l'Évangile. Cette joyeuse nouvelle. Cette nouvelle qui nous apporte la joie. Et dans ce couple, Dieu et moi, Dieu et nous, quand il y a cette vie de couple, eh bien, il y a la joie. Fini la tristesse, fini le désespoir, fini les dépressions continuelles. Pas fini les épreuves, pas fini les afflictions, pas fini les deuils ou les maladies, il y aura. Mais quand on aime quelqu'un et qu'on vit avec cette personne, quand on est amoureux, vous savez, vous qui êtes amoureux, vous qui l'êtes, vous qui le serez, quand on est amoureux, on supporte beaucoup plus de choses. Vous avez remarqué ça? Tout est différent. Avant, on se plaignait de ceci, de cela, mais maintenant qu'on est amoureux, tout est formidable. Ben pourquoi? Parce qu'on est amoureux. On regarde à travers les yeux de cet amour et de cette relation qu'on vit. Et c'est comme ça avec Dieu. Il y aura une difficulté, les épreuves, mais il y a cet amour. Et ça change tout. Toute manière de voir, les épreuves, les maladies, les décès, les difficultés. Et c'est à ça que l'Évangile nous invite. C'est une joyeuse nouvelle.
Et vous savez, les anges disent au berger, n'ayez pas de crainte, ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. Et j'aimerais dire cela à beaucoup de personnes à qui je parle et que je rencontre. J'aimerais leur dire, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et c'est souvent la peur qui les empêche de venir à Dieu. Cette peur qu'ils ont. Ils ont peur de s'engager. Ils ont peur de venir à Dieu. Ils ont peur que Dieu va leur faire du mal. Parce qu'ils ont eu du mal. On leur a fait du mal dans la vie. On les a maltraités. On les a déçus. On les a trompés. Ils ont souffert du péché. Alors voilà, Dieu qui est un être pur et parfait, qui vient vers eux, et on n'a pas confiance. Alors si vous pouvez faire confiance à quelqu'un, c'est bien au Seigneur. Lui ne vous décevra pas. Vous avez été déçu, on l'est tous, on l'a tous été. Dites-vous bien que lui ne vous décevra pas. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, vous ne devez pas craindre. Vous ne devez pas lui